Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien.
Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui.
Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété.
Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce
soir. Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu.
L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel.
Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien.
Bonjour Claudia.
Aujourd'hui dans Crime Story, ce qu'on a appelé le mystère Saint-Aubin.
Un accident de la route dans le Var, deux jeunes gens tués. Derrière ce fait divers en apparence banal, une véritable affaire d'État que les parents d'une des victimes vont passer leur vie à tenter de révéler.
Dimanche 5 juillet 1964, il est environ 7h du matin. Des gendarmes se rendent sur une route du Var, près de Fréjus, la Nationale 7. Un automobiliste vient de les appeler pour leur signaler un accident. Quand ils arrivent, ils découvrent une Volvo noire et blanche, encastrée dans un platane, à tel point qu'on a l'impression qu'elle s'est enroulée autour de l'arbre. Le choc semble avoir été d'une violence inouïe. La voiture est un modèle de sport, rapide. Elle est immatriculée en Suisse. À l'intérieur, un jeune homme et une jeune femme d'une vingtaine d'années. Très grièvement blessés, ils sont transportés à l'hôpital, où ils meurent quelques dizaines de minutes plus tard. Les gendarmes analysent la situation et en déduisent rapidement ce qui s'est passé. La chaussée est mouillée et le témoin qui les a alertés dit avoir été dépassé par la Volvo à très grande vitesse, quelques instants avant l'accident. Et puis à la sortie du virage, il y a ce dos d'âne et aucune trace de freinage sur la route. Le conducteur aura été surpris avant de perdre le contrôle de sa voiture et de s'écraser dans le platane. Un accident tragique et banal, comme il y en a beaucoup en France à l'époque, puisque chaque année, 15 000 personnes sont tuées sur les routes. Les corps sont identifiés. Ce sont ceux de Jean-Claude Saint-Aubin, 23 ans, et Dominique Kédache, 16 ans. Ils sont partis de Dijon la veille. Les parents de Jean-Claude, Jean et André Saint-Aubin, sont des commerçants connus en Bourgogne, à Dijon. Ils sont à la tête d'une des plus belles bijouteries de la ville, située place Grangier, dans l'hypercentre. Le vendredi 3 juillet, dans l'après-midi, une jeune femme passe les voir. C'est Dominique Kédache, dont les parents tiennent une pâtisserie dans le centre-ville. Dominique leur demande s'ils peuvent l'amener au domaine du Pin de la Lègue, un camping où les Saint-Aubin ont leurs habitudes. Sa sœur et son mari se trouvent déjà là-bas. La famille Saint-Aubin doit justement s'y rendre le lendemain et a prévu de faire le trajet avec plusieurs voitures. Ils acceptent et il est décidé que c'est Jean-Claude, leur fils aîné, qui conduira la jeune femme. Deux voitures suivront, celle des parents, qui tractera une caravane et avec le petit frère de 14 ans à l'arrière, et celle du frère cadet, François, âgé de 21 ans. Jean-Claude est venu de Genève en Suisse, où il vit et fait un stage de marketing au garage Jaguar. Passionné de voitures, il est aussi pilote essayeur. Le samedi 4 juillet, Jean-Claude passe donc chercher Dominique, qui s'installe à côté de lui avec une provision de gâteaux et de confiserie offerte par la pâtisserie familiale pour le voyage. Durant tout le trajet, les trois voitures s'attendent mutuellement. La caravane roule moins vite, mais chacun fait l'effort de patienter régulièrement sur le bas-côté de la route pour s'assurer que les autres vont bien. Le lendemain, 20 km environ avant d'arriver au domaine, la caravane des parents double Jean-Claude, arrêté sur l'accotement. Ils échangent quelques mots et la caravane repart en premier. Ils se retrouveront à l'arrivée. Damien, les parents, Jean et André Saint-Aubin, arrivent en premier,
Oui, ils s'installent sur leur emplacement de camping, puis le frère cadet François arrive, donc tout le monde commence à déplier ses affaires, à s'installer, et tout le monde s'inquiète de ne pas voir arriver Jean-Claude, mais il se rassure en se disant qu'il est sans doute allé déposer sa copine Dominique avant de passer au camping, et qu'il a probablement été invité à déjeuner, à petit déjeuner, par la famille de Dominique.
Il voit finalement arriver une deux chevaux, c'est celle du domaine.
Oui, c'est celle du gardien qui est au volant de cette deux chevaux. Donc il pense que le gardien passe les voir pour leur remettre les cartes de piscine, puisqu'il y a une piscine, il faut qu'ils aient une carte. Donc voilà, il pense que c'est en quelque sorte une visite de courtoisie le jour de leur arrivée de la part du gardien. Simplement, c'est pas du tout ça. Le gardien s'arrête à leur hauteur et leur dit « il y a eu un accident, puis ils sont morts tous les deux ».
Les parents comprennent qu'ils parlent de leur fils et ils s'effondrent.
Oui, la maman racontera plus tard cette scène. Elle dit qu'à ce moment-là, elle ne peut quasiment plus bouger, plus rien faire, mais qu'avec son mari et son autre fils, son grand-fils, ils vont se rendre à la gendarmerie de Fréjus pour essayer d'en savoir plus sur les circonstances du drame qui vient de se produire.
À la gendarmerie de Fréjus, Jean et François, le père et le frère de Jean-Claude, sont accueillis par des agents qui les font asseoir. On leur apprend que l'accident s'est produit entre Puget-sur-Argence et Fréjus, au lieu-dit Les Esclapes, à 2 km environ de Fréjus. La voiture a quitté la route et est venue s'écraser contre un platane, à gauche de la chaussée. À ce moment-là, les gendarmes ne sont pas en mesure de donner à la famille davantage de précisions sur les circonstances de l'accident, ni sur les raisons de ce changement brutal de trajectoire. Jean Saint-Aubin, le père, demande à voir les corps. On lui répond qu'ils ne sont pas encore prêts, il faut terminer leur toilette. Jean et François sont sous le choc, ils ne comprennent pas. Un accident d'une si grande violence, causé par Jean-Claude, qui pourtant maîtrise parfaitement son véhicule. Certes, il aimait la vitesse et les voitures, il en a d'ailleurs fait son métier. Mais il semble absolument improbable pour son père et son frère qu'il n'ait pas freiné. Il savait anticiper. S'il avait vu un obstacle, même à la dernière minute, il aurait tenté de s'arrêter plutôt que de le prendre de plein fouet. Comment expliquer l'absence de traces de freinage sur la route? Vers 10h, la famille est autorisée à se rendre à la morgue de l'hôpital. Il faut identifier formellement les corps. Dans une immense douleur, les parents de Jean-Claude confirment. Ce corps inerte, allongé sur un brancard avec un pansement sur la tempe droite, est bien celui de leur fils aîné. La famille de Jean-Claude s'organise alors pour faire rapatrier le corps du jeune homme à Dijon. Il est inhumé quelques jours plus tard dans le caveau familial. Le deuil commence, mais les premières questions émergent. Les membres de la famille de Jean-Claude ont du mal à croire à la thèse de l'accident qu'on leur a présentée. François surtout, son frère cadet qui a 2 ans de moins que lui, est sceptique. Il vit à Genève, comme Jean-Claude, et il se voyait quasiment tous les jours. François connaît sa passion pour la mécanique et ses talents de conducteur. Tout ceci est incompatible avec l'erreur que Jean-Claude semble avoir commise. Il venait d'obtenir sa licence à la Fédération française des sports automobiles et il avait, pendant toute la durée de son service militaire, été le chauffeur attitré de son colonel. Par ailleurs, Jean-Claude avait l'habitude d'emprunter des routes dangereuses. Il faisait souvent le trajet entre Genève et Dijon et traversait donc régulièrement le Jura. Là, il s'était souvent retrouvé à conduire sur des routes de montagne étroites et enneigées. François est certain que Jean-Claude n'a pas fait d'erreur de pilotage. Il va même plus loin. Compte tenu de la position de la voiture, qui était comme enroulée autour de l'arbre qu'elle a heurté, François pense que Jean-Claude s'est retrouvé tout d'un coup devant un obstacle imprévu et qu'il n'a pas pu l'éviter. Ça n'a donc pas pu être un simple dos d'âne, comme c'est indiqué dans le rapport de la gendarmerie. Damien, les parents de François croient à la thèse de leur fils et une semaine après la mort de Jean-Claude, ils prennent une nouvelle fois la route de Fréjus.
En tout cas, ils veulent comprendre. Donc ils vont se rendre sur les lieux de l'accident et ils remarquent que le tracé de la route ne correspond pas exactement à ce qui est décrit par les gendarmes dans leur procès-verbal de constatation. Sur le croquis, le dos d'âne est matérialisé à 80 mètres du platane. Mais en réalité, quand on fait les mesures, quand ils font les mesures sur le terrain, ce dos d'âne, il est à 190 mètres du lieu de l'accident, c'est-à-dire le double de la distance. C'est déjà une première incohérence assez surprenante.
La famille Saint-Aubin a accès au procès-verbal dressé par les gendarmes. Qu'est-ce qui est écrit dedans ?
Alors, il est écrit ceci. Le conducteur de la voiture de marque Volvo qui circulait à vive allure en direction de Fréjus, en franchissant le dos d'âne situé à 80 mètres avant l'accident, a perdu le contrôle de sa direction et est venu se jeter de flanc, côté droit, contre un platane bordant la chaussée à gauche, dans le sens de la marche. Sous le choc, la voiture s'est pliée en entourant l'arbre. Aucune trace de freinage sur le bitume mouillé. Nous relevons seulement, disent les gendarmes, une trace de dérapage de la roue avant droite sur le bas-côté gauche de la chaussée de 1,80 m de longueur environ.
Un témoin a été entendu par les gendarmes.
Oui, en fait, c'est l'automobiliste qui a appelé les gendarmes pour leur signaler l'accident. Lui, il va raconter que ce jour-là, vers 7h environ, il partait travailler et qu'il a été doublé par une voiture immatriculée en Suisse qui, selon lui, elle est très vite. Alors très vite, c'est 90 km/h environ à l'époque, mais à l'époque, on est en 1964, 90 km/h, c'est déjà une vitesse très élevée pour les voitures de l'époque. Et il va raconter aux gendarmes, il va dire, voilà, lorsque cet automobiliste m'a dépassé, il circulait déjà sur la gauche et sa voiture sautait et zigzaguait, explique-t-il aux gendarmes. Après avoir roulé 50 mètres environ, la voiture s'est mise en travers de la route et s'est jetée le côté droit contre un platane situé sur le bas-côté gauche de la chaussée par rapport à sa direction de marche. Et il explique que la voiture s'est, selon lui, littéralement encastrée dans l'arbre.
Tout est là, sur ce procès-verbal de gendarmerie et dans le récit de ce témoin providentiel. Le jeudi 16 juillet, 11 jours après l'accident, l'affaire est classée sans suite. Ce n'est définitivement qu'un banal accident de la route. Mais la famille n'est toujours pas convaincue. D'abord, la thèse de l'accident leur paraît toujours aussi improbable. Ensuite, ils trouvent que l'enquête n'est pas allée chercher très loin. Un seul témoin qui raconte tout. Et aucun élément supplémentaire. Les semaines qui suivent, les Saint-Aubin planchent sur ce mystérieux accident. Pour commencer, ils retournent un certain nombre de fois sur les lieux. Ils sont à la recherche du moindre indice qui pourrait les aider. Et ils aimeraient notamment trouver d'autres témoins. Une enquête de voisinage finit par les mener à une femme qui travaille dans une station-service. 6 semaines après l'accident, les Saint-Aubin parviennent à discuter avec elle. Elle leur livre des informations intéressantes. La pompiste confie qu'un de ses clients a assisté à l'accident et il lui a dit qu'un camion était impliqué. Cet homme s'appelle Mohamed Moualkia et c'est un harki, c'est-à-dire un Algérien, enrôlé par la France dans l'armée à l'époque de la colonisation, mais sans bénéficier du statut de militaire. Son témoignage remonte au 5 juillet, le jour même de la mort de Jean-Claude Saint-Aubin et Dominique Kédache. Il aurait dit à la pompiste ce jour-là « J'ai vu un accident en me rendant à mon travail ». Mais surtout, il aurait donné des détails sur les circonstances. Et il aurait raconté qu'une camionnette, suivie d'une Peugeot 203 noire, a été à l'origine du choc. Le mardi 4 août, un mois après l'accident, les parents de Jean-Claude Saint-Aubin portent plainte contre X pour homicide involontaire. Leur objectif est qu'une enquête soit ouverte et menée. C'est ce qui se passe. Il est alors remarqué que sur le procès-verbal des gendarmes, la distance entre le dos d'âne et le platane est mal inscrite à 2 reprises. 80 mètres au lieu des 190 mètres en réalité. Et ça a son importance. Car si le dos d'âne est bien la cause de l'accident, ça signifie qu'entre le moment où la Volvo l'a pris de plein fouet et le moment où elle est entrée dans le platane, elle a parcouru en réalité près de 2 fois la distance inscrite dans le rapport. Il y a également des imprécisions, voire des erreurs évidentes sur le croquis qui reprend le lieu de l'accident. L'échelle n'est pas la bonne. Enfin, il y a la version livrée par le seul témoin de l'accident. Damien, le lundi 10 août, 5 semaines après l'accident, la juge d'instruction en charge de l'affaire convoque le témoin pour qu'il soit à nouveau entendu.
Il s'appelle Jean-Pierre Goursolas et il ne dit plus du tout la même chose que la première fois. Ou plutôt, il en dit beaucoup moins précis. Il dit simplement « J'ai été doublé par la Volvo avant le dos d'âne et avant le virage. Je l'ai perdu de vue jusqu'à ce que je l'aperçoive écrasé contre un platane 150 à 200 mètres plus loin ».
Donc en fait, ce témoin, il n'a pas vu réellement ce qui s'est passé.
En tout cas, il n'est pas témoin de la scène directe de l'accident. Contrairement à ce qu'il avait expliqué aux gendarmes, ou en tout cas ce que les gendarmes avaient écrit dans leur premier procès-verbal. Lui, il dit qu'il a vu ce qui s'est passé juste avant le choc et qu'il a vu ce qui s'était passé juste après. Donc, on se retrouve à ce moment de l'enquête avec deux éléments importants. D'abord, ce fameux témoin qui avait prétendument tout vu, en fait, il n'a pas tout vu. Et surtout, alors qu'il est supposé être le seul témoin, on s'aperçoit qu'il y en a un autre qui a une toute autre version de l'accident parce que lui, il implique la présence d'un camion et d'une autre voiture et lui, il n'a jamais été entendu par les gendarmes.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, le mystère Saint-Aubin. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.